juste 3h30 en temps universel, 5h30 à Djouba. Vous êtes sur Radio France Internationale.
Édouard Dupenoise.
Et vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant pour cette première demi-heure africaine sur la radio du monde. Elle donne la parole d'abord à la société civile du Soudan du Sud, alors que l'ONU s'alarme de l'embrasement de la violence. Désarmer les miliciens, unifier les forces armées nationales, abandonner le tribalisme, réclament les militants. Au moins 40 morts dans un village du Massissi dans l'est de la République démocratique du Congo en milieu de semaine. Plusieurs sources pointent les Wazalendo alliés aux militaires congolais. 10 ans, Kitai Dzamara a disparu au Zimbabwe, le journaliste et militant kidnappé à la sortie de Harare. Personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Nous sommes à Madagascar aussi, qui rouvre ses liaisons maritimes, voyageurs et marchandises avec les Comores. Et dans les crampons de Jean-Philippe Crasso, l'ivoirien en forme du Paris FC, vainqueur de Lorient hier soir. Entre les Nations Unies et la société civile, les inquiétudes se manifestent donc de plus en plus vivement autour du Soudan du Sud. La présidente de la Commission sur les droits de l'homme d'abord, Yasmine Souka, qui disait hier que le pays faisait face à une régression alarmante, elle craint que la résurgence des violences ces dernières semaines ne vienne anéantir 7 ans de laborieux combats pour la paix depuis l'accord de 2018. L'état du Haut-Nil est le plus touché avec ses affrontements entre la White Army, réputée proche de Riek Machar, et l'armée régulière. Mais la vice-présidente du Forum de la société civile va plus loin encore. Elle réclame une vraie accélération dans la démobilisation et le désarmement de tous les groupes armés. Jacqueline Nassiwa le dit à Amélie Tullet.
Le pays est actuellement très fragile et si ces tensions ne s'apaisent pas, nous risquons un conflit national à grande échelle. Les gens sont en train de se replier sur leurs groupes ethniques, leurs politiques régionales. Cela ne nous aidera pas à guérir en tant qu'État. Un dialogue national est très important. Deuxièmement, j'appelle à l'unification des forces armées. Cela prend trop de temps et les différents groupes se sont réarmés, remobilisés. Il faut donc accorder beaucoup de financement et de soutien à l'intégration des forces afin que nous ayons une armée nationale unifiée. Sans armée unifiée, le reste ne peut pas bien avancer. Et les partis politiques doivent être démilitarisés. Donc, tout cela n'arrivera que lorsque nous aurons une armée nationale et que les politiciens devront tous jouer sur un pied d'égalité en étant des politiciens et pas des militaires en même temps.
Jacqueline Nassiwa, qui est également directrice exécutive du Centre pour la gouvernance inclusive sud-soudanais. Les circonstances de l'attaque du village de Tambi dans l'est de la République démocratique du Congo commencent à apparaître un peu plus clairement. 3 jours après ces événements sanglants, plusieurs sources sanitaires évoquent au moins 43 civils tués mercredi soir dans cette localité du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Des miliciens Wazalendo, alliés aux forces armées congolaises, auraient attaqué des villageois suspectés d'avoir collaboré avec le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Précision Alexis Guilleux.
C'est vers 22h mercredi que des combattants Nyatura Bazungu, des miliciens Wazalendo, ont attaqué le village de Tambi et tiré sur des villageois, selon des sources locales. Des sources sanitaires de la zone évoquent 43 civils tués. Ce chiffre pourrait même être plus élevé, déclare une source onusienne à RFI. Selon elle, des victimes auraient été enfermées dans une maison incendiée. Le matin, nous sommes allés voir et nous avons vu des corps calcinés. On avait du mal à les identifier, témoigne un rescapé sous couvert d'anonymat. La plupart des victimes, des hommes, des femmes, des enfants, étaient des déplacés récemment revenus dans cette zone occupée par le M23, avec qui les miliciens les auraient accusés de collaborer. De sources locales, les miliciens ont ensuite regagné leur position de Bulindi et Boutenderi à une dizaine de kilomètres de là. Cette attaque intervient alors que la SADC et l'EAC ont appelé à un cessez-le-feu. Depuis 2 jours, de violents combats sont signalés autour de Massissi entre l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, appuyée par les milices Wazalendo.
Alexis Guilleux, ce 9 mars marque les 10 ans d'une disparition toujours pas élucidée au Zimbabwe, celle du journaliste et militant Itai Dzamara. Il avait 35 ans le jour où il a été kidnappé par 5 individus en sortant de chez le barbier dans la banlieue de la capitale, Harare. Les décisions de justice qui ordonnaient des enquêtes et des rapports réguliers semblent avoir été définitivement enterrées. Mais sa famille et ses proches continuent de réclamer la vérité. Correspondance régionale Claire Bargelès.
Avant son enlèvement, Itai Dzamara avait déjà été intimidé, attaqué et arrêté pour son militantisme. Il manifestait notamment pour l'amélioration des conditions économiques et la démission du président de l'époque, Robert Mugabe. Depuis sa disparition forcée, aucune avancée n'a eu lieu sur le plan de la justice, même sous le gouvernement d'Emerson Mnangagwa, selon Tigere Chaguta, représentant d'Amnesty International.
Le gouvernement zimbabwéen a laissé tomber la famille d'Itai Dzamara. La haute cour du Zimbabwe avait ordonné à la police et aux services de sécurité de l'État de chercher Itai et de remettre un rapport sur leurs progrès toutes les deux semaines. Mais jusqu'à ce jour, aucun service de sécurité n'a respecté cette décision et la police a cessé de rendre les rapports qui avaient été demandés par la cour.
Cette absence de justice envoie un très mauvais signal pour la société, selon Dika Maibere, directeur de l'Association zimbabwéenne pour les droits de l'homme.
Au Zimbabwe, on a déjà connu dans le passé beaucoup d'enlèvements qui n'ont jamais été élucidés. Et cela plonge les militants dans l'insécurité. Cela donne aussi un sentiment d'impunité pour les auteurs de ces crimes, à qui on envoie le message qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qui sont au-dessus des lois.
Selon Amnesty International, sur les deux dernières années, 10 opposants politiques ont été enlevés dans le pays, puis pour la plupart relâchés, sauf dans le cas de Tapfumanei Masaya, dont le corps sans vie a été retrouvé en 2023 dans une ferme. Claire Bargelès, Johannesbourg, RFI.
Il est 6h36 à Majunga, même heure à Moroni. Et sur RFI toujours, on en vient à cette bouffée d'oxygène entre Madagascar et les Comores. Les autorités de la Grande Île autorisent la réouverture complète des liaisons maritimes avec l'archipel. Elles étaient suspendues depuis le mois d'octobre officiellement pour des raisons sanitaires. Antananarive, 10 ans, se méfiait de l'épidémie de choléra qui sévissait dans l'archipel voisin. Guillaume Fabry, c'est tout particulièrement la ville de Majunga qui devrait respirer un bon coup.
Malgaches et Comoriens peuvent de nouveau circuler librement entre leurs îles. Les conditions sanitaires sont désormais réunies, affirme Valérie Ramon-Zavel, ministre des Transports et de la Météorologie.
On a attendu des signaux très positifs de l'évolution de l'épidémie de choléra qui sévissait aux Comores. Pendant plusieurs semaines, on a pu voir qu'il n'y avait plus aucun cas. Et donc, c'est ça qui a été l'élément déterminant pour la levée de cette suspension des relations donc entre les deux pays au niveau maritime.
En décembre dernier, le gouvernement malgache avait dans un premier temps réautorisé les échanges de marchandises avec les Comores. Mais depuis, il n'avait quasiment pas repris, Moroni n'ayant pas coopéré afin de protester contre le maintien de l'interdiction de circulation des passagers. Une situation qui a causé beaucoup de tort aux opérateurs économiques de Majunga, selon Christian Afakanj, député d'opposition de la ville.
Cette reprise est une bonne nouvelle parce que cette liaison, c'est capital pour l'économie de la ville de Majunga. En particulier, l'exportation des gaz naturel et des constructions, des produits agricoles en général, du riz, des haricots. Tout le monde est content maintenant, tout le monde a soulagé.
Les autorités comoriennes et malgaches se disent également favorables à un rétablissement des liaisons aériennes entre les deux pays, suspendues depuis 2022. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Et vous en retrouverez un article plus complet à lire sur notre site RFI.fr. C'est d'un tout autre aspect de Madagascar que l'on vous parle maintenant. Celui que capte l'œil de Ridzasoul. Il est photojournaliste, certes, vainqueur même du prix World Press il y a 3 ans. Mais il ne peut pas s'empêcher de porter aussi un regard artistique sur ces sujets. Surtout dans l'ombre, dans les espaces clos et confinés, dans la nuit, dans les bars et dans les clubs. La Fondation H à Paris expose en ce moment une 60aine de ses tirages. Et Ouda Ibrahim est allé les voir pour nous.
C'est une vie vibrante, la nuit, dans les lieux de rassemblement de la capitale malgache, que le photographe saisit, souvent dans des espaces intérieurs, de cinéma, des bars, des clubs ou autres lieux de rassemblement. Le photographe Ridzasoul n'hésite pas à trop s'approcher de ce sujet afin de capter des fragments de vie, des scènes ouvertes à la nuit, à l'inconnu et à l'aventure. Marie Doumerc, responsable de la galerie.
Ici, dans l'espace parisien de la Fondation H, on présente un corpus d'une 60aine d'images prises entre 2004 et 2024 sur Madagascar. L'idée de cette exposition est d'apporter un regard neuf dans la pratique du photographe, de se pencher sur les esthétiques, sur les lumières, les vibrations de chaque image, sans forcément regarder le contexte dans lequel les images ont été prises.
L'exposition montre surtout l'autre travail de Ridzasoul, vainqueur du World Press en 2022, des photos d'art loin du photojournalisme qu'il pratique. C'est donc un travail plus intime et plus personnel qui est exposé avec des photos qui, selon l'artiste, transmettent une sensation fugace et insaisissable.
Ouda Ibrahim pour cette exposition à voir jusqu'au 17 mai Lyonnais. Ça se passe à Paris encore. Et cette fois, tout en haut du classement de la Ligue 2, le foot, pour terminer ce journal et la très belle opération hier soir, à la fois du Paris FC, vainqueur de Lorient, 3-2, mais aussi de l'attaquant ivoirien Jean-Philippe Crasso, auteur encore de 2 buts qui font briller son palmarès avant la publication de la liste des éléphants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Sofiane Amazian.
13 buts et 5 passes décisives en 25 matchs avec le Paris FC. Jean-Philippe Crasso occupe désormais seul la place de meilleur buteur de Ligue 2 après avoir vécu une période plus compliquée en club. Maxime Lopez, autre cadre de cette formation parisienne, n'a jamais douté des capacités de finisseur de l'Ivoirien.
J'avais dit en début de saison, il fallait qu'il mette 15 buts. Il a 13, donc il en manque que 2 sur 8 matchs. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs où peut-être il était un peu passé au travers. Maintenant, on sait que c'est un joueur très très important pour nous.
À la lutte pour la montée, le Paris FC aura besoin de son meilleur artificier pour découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. L'ancien buteur de Saint-Etienne a un objectif de but marqué bien précis en tête pour la fin de saison, mais il préfère se focaliser sur le collectif.
Mon rôle, c'est de marquer, de faire marquer, donc c'est un petit objectif secondaire, on va dire, que je me fixe personnellement. Et c'est d'abord le collectif et d'abord la montée.
Habitué de la sélection ivoirienne, Crasso doit faire face à une concurrence forte en attaque chez les éléphants. Le natif de Stuttgart en Allemagne espère tout de même être de la partie pour la prochaine trêve.
On essaie de travailler d'arrache-pied pour pouvoir aussi pouvoir avoir l'honneur de représenter le pays. Et donc si je suis appelé, bah, j'irai donner le meilleur de moi-même comme d'habitude. Hein. Et puis on espère gagner aussi là-bas pour pouvoir se rapprocher aussi de l'objectif qui est la Coupe du Monde.
La Côte d'Ivoire aura bien besoin d'un Jean-Philippe Crasso en grande forme pour conforter leur première place de groupe.
Sofiane Amazian et toute l'actualité des sports ce matin, c'est avec Antoine Grenier. Premier journal complet dans une heure.
Afrique Matin sur RFI.
Il est 4h42 et voilà le générique des 20 prochaines minutes dans l'ordre d'apparition. Reportage de la rédaction au Sénégal avec des projets de formation professionnelle pour les jeunes. Les têtes d'affiche de Denis Epoté, la Centrafrique à l'honneur ce dimanche. Le livre enquête du journaliste Marwan Chahine, comprendre l'étincelle de la guerre civile libanaise. Et le coming out du disco, reportage dansant évidemment à la Philharmonie de Paris. Avec donc cette première escale à Dakar pour vous parler d'une initiative hispano-sénégalaise, ce programme de formation professionnelle que la Chambre de commerce espagnole a mis en place l'année dernière. 2024, c'était l'année pilote et ça a été un carton. Elle finance des formations dans des secteurs où le Sénégal a un besoin criant de main-d'œuvre qualifiée, le bâtiment, le textile, l'agriculture ou encore le tourisme. À la clé de la formation, un stage. Et bien souvent, à la clé de ce stage, un emploi définitif et rémunéré. Reportage Juliette Dubois.
Dans la section bâtiment, ils sont 95 en formation. Certains avaient déjà une petite expérience formée sur le tas. D'autres viennent d'univers très différents, comme Radidiatou Sambou, infirmière de 28 ans.
Au Sénégal, c'est trop difficile d'avoir un boulot. J'étais tout le temps les stages. J'ai fait ça pendant 3 ans.
Elle a choisi la spécialisation échafaudage, espérant trouver rapidement un emploi à la fin.
On a tout le temps de nouvelles constructions. À Dakar, c'est pourquoi je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance sur le sens. Après l'obtention d'un diplôme, pour trouver quelque chose de meilleur.
L'ONG sénégalaise Help for Migrants a aidé à recruter les élèves. Parmi plus de 1000 candidatures, ils ont ciblé des profils qui pouvaient être tentés par la migration irrégulière et des migrants de retour comme Mansour Soumaré. Il a tenté 3 fois de rejoindre l'Europe par l'océan, rêvant de devenir footballeur professionnel sans succès.
À la suite de toutes ces expériences, j'ai pris la décision de laisser tomber la migration, de rester au pays et de suivre une formation professionnelle. Je me suis dit que grâce à ça, je pourrais peut-être trouver le moyen de voyager légalement à la suite de ma formation.
Après les 3 mois de formation, les apprentis auront 3 mois de stage dans les entreprises espagnoles et sénégalaises, membres de la Chambre de commerce d'Espagne au Sénégal, à la clé des embauches en CDI si tout se passe bien. L'idée du programme, financé par le gouvernement des Canaries, est donc de créer de l'emploi pour dissuader les jeunes de prendre les pirogues vers l'archipel espagnol, mais aussi de répondre aux besoins en personnel de ces entreprises partenaires.
Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont transmis qu'ils cherchent des personnels et que c'est difficile de trouver des personnels qui ont reçu une formation adaptée à les besoins réels du marché.
Paola Medina Agromayor, secrétaire générale de la Chambre de commerce Espagne-Sénégal et coordinatrice du programme Tir Affirmé.
On travaille avec les centres de formation, avec quelques critères que l'entreprise nous a transmis, pour créer les profils les plus adaptés à les besoins de l'entreprise.
Dans une autre salle, les élèves de la spécialité électricité valident une épreuve technique.
Là, il y a des câbles pour câbler encore les câbles.
Le directeur de la structure de formation 2IFA, Ismail Atioub, voit la demande en ouvriers qualifiés exploser.
Partout, les gens commencent à construire en hauteur. Et quand on parle de construire en hauteur,
Ben, là, c'est la netteté, quoi. C'est le professionnalisme. Quelqu'un qui n'est pas formé, comment il peut construire l'immeuble à 6 ou 7 étages? Là, ça va être très compliqué.
À la fin du programme pilote en 2024, tous les jeunes formés avaient trouvé un emploi. 250 personnes bénéficient du programme cette année. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il est tout juste 3h45 à Dakar.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Et les têtes d'affiche de Denise Époté dans une minute. Avant ça, les grandes lignes de l'actualité internationale de ce dimanche 9 mars. La Syrie d'abord. Et l'ancien bastion du président déchu Bachar al-Assad, théâtre de violence de très grande ampleur. Le nouveau régime promet d'y rétablir l'ordre en 3 jours. L'OSDH a dénombré 745 civils tués. Cela porte le bilan des violences à 1018 morts, dont 273 membres des forces de sécurité et des combattants loyaux au clan Assad, selon l'ONG. La Russie revendique la reprise de 3 villages dans sa région de Koursk face aux troupes ukrainiennes. C'est un revers pour Kiev, à l'heure où la perspective de pourparlers semble se renforcer. Une délégation ukrainienne de haut niveau, composée notamment de ministres, rencontrera une équipe américaine dans 2 jours en Arabie Saoudite. C'est ce que dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au Canada, le parti au pouvoir s'apprête aujourd'hui à choisir son nouveau leader pour remplacer Justin Trudeau au poste de Premier ministre. L'ancien banquier central Mark Carney, 59 ans, est donné largement favori de ce scrutin. Et puis l'Allemagne qui franchit une étape cruciale vers la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Friedrich Merz. Les conservateurs et les sociaux-démocrates annoncent un accord de principe pour une coalition. Dès la semaine prochaine doivent commencer les négociations détaillées qui conduiraient d'ici Pâques à un contrat de coalition. La République centrafricaine est donc à l'honneur des têtes d'affiche ce dimanche. La chronique de Denise Époté pour mettre en lumière celles et ceux qui méritent aussi de faire l'actualité africaine. Notre consoeur de TV5 Monde répond à Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Époté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans votre palmarès cette semaine, 2 innovateurs originaires de la République centrafricaine. Le premier, Gabino Guérin-Gomba, est ingénieur en architecture réseau et en propriété intellectuelle formé aux États-Unis. Sa start-up IST a conçu des panneaux solaires afin de fournir une énergie fiable et un accès à Internet.
Les soirées passées à réviser ses cours à la lueur des rares lampadaires dans les rues de Bangui ont conduit Gabino Guérin-Gomba, une fois son cursus académique achevé, à se lancer dans l'entrepreneuriat pour concevoir des panneaux solaires d'une nouvelle génération spécialement conçus pour les zones à très forte insolation. Selon lui, les panneaux au silicium présentent une incohérence du flux d'électricité et sous une chaleur extrême, certains des composants ne résistent pas. En 2015, l'innovateur fait partie des 1000 premiers entrepreneurs soutenus par la fondation Tony et Lumelu. Une aide financière et des semaines de mentors fort utiles pour lancer sa start-up. Avant la reconnaissance nationale, c'est au Bénin que l'expertise de Gabino Guérin-Gomba est reconnue. Il fournit 20 mégawatts pour alimenter 10 zones rurales. Le contrat comprend également un volet formation pour 4 jeunes Béninois invités à Pittsburgh pour en faire des maîtres ingénieurs. Un accord conclu avec l'initiative Lighting Africa de l'artiste Econ permettra de déployer l'innovation dans 15 pays. En fournissant une énergie et une connectivité bon marché, Gabino Guérin-Gomba est convaincu que de jeunes centrafricains pourront créer des entreprises pour relancer l'économie nationale.
Denise, votre seconde tête d'affiche s'appelle Teddy Kosoko, lui aussi originaire de la République centrafricaine, diplômé de l'Institut universitaire de Blagnac et de l'Université de Toulouse. Il possède un DUT en informatique et un master en méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Sa start-up Maseka Game Studio conçoit des jeux vidéo pour promouvoir l'histoire et la culture africaine.
C'est en concevant Kisoro Tribal Game, une version numérique d'un divertissement traditionnel inspiré de la culture centrafricaine que Teddy Kosoko s'est fait connaître. Ce féru d'histoire avait à cœur de partager de manière ludique sa passion avec les jeunes Africains afin de leur raconter l'histoire de l'Afrique autrement. En 2022, il crée Gara, le premier jeu vidéo basé sur les mythes et légendes d'Afrique présent dans le Métaverse. La même année, il lance Golden George, inspiré du parcours de George Weah, premier ballon d'or africain et à l'époque président du Libéria. À la veille de la Coupe du Monde au Qatar et de la CAN en Côte d'Ivoire, le jeu bat des records de téléchargement. Au-delà des jeux, l'objectif de Teddy Kosoko est également d'impacter le secteur de l'éducation en proposant des versions numériques des manuels utilisés dans les systèmes éducatifs. 50% des consommateurs des jeux conçus par Maseka Game Studio se trouvent en Afrique. La start-up bénéficie également d'une forte reconnaissance des acteurs de l'industrie. En 2018 et en 2022, Teddy Kosoko a figuré dans le classement Forbes Afrique consacré aux 30 Africains de moins de 30 ans, acteurs décisifs du changement sur le continent.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain.
Et nous, Nicolas Brousse, on vous dit à tout à l'heure, Afrique midi, midi 30 en temps universel. Autre rendez-vous dominical, la rédaction de RFI vous présente un livre qui éclaire un peu différemment, un peu plus en profondeur, un enjeu de l'actualité contemporaine. Et c'est au Liban que ça se passe aujourd'hui avec le livre Enquête de Marwan Shaïn, 10 ans pour comprendre ce qui s'est passé exactement le 13 avril 75, lorsque des milices chrétiennes attaquent à Beyrouth un bus qui transporte des Palestiniens. On en fait bien souvent l'étincelle déclencheuse de la guerre civile libanaise qui durera pendant 15 ans. Mais que s'est-il passé réellement ce jour-là ? L'auteur répond aux questions de Nicolas Feldman.
Bonjour Marwan Shaïn.
Bonjour.
Déjà, première question, pourquoi avoir choisi de travailler sur ce massacre du 13 avril 1975 ?
Alors cet événement du 13 avril 1975, ce qui est très étonnant, c'est que tous les Libanais le connaissent et pourtant personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé quand je suis arrivé au Liban en 2015. Donc je connaissais un peu l'histoire du pays, mais pas plus que ça. Et j'ai découvert que donc cet événement qui est considéré comme l'événement déclencheur de la guerre, n'avait jamais été réellement documenté. Même à l'endroit où il a eu lieu, il n'y avait pas une plaque commémorative pour dire « ici a commencé la guerre civile libanaise ». Donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qui s'était passé ce jour-là et les raisons de l'amnésie. Donc j'ai commencé par écrire un petit article à l'occasion des 40 ans du début de la guerre civile. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait savoir plein de choses contrairement à ce qui était généralement dit. De fil en aiguille, je me suis laissé entraîner dans cette enquête qui a pris presque 10 ans de ma vie.
Oui, une enquête qui devait durer 2 semaines et donc qui a duré une décennie. Pour mener cette enquête, vous exhumez des articles de presse, vous ressortez des rapports de police, vous partez à la recherche des protagonistes et des témoins. Vous parvenez à rétablir des faits, mais il est difficile, voire impossible, d'établir une réalité, une vérité sur le déroulé du drame. Comment expliquer ces difficultés ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que c'est un événement qui a aujourd'hui 50 ans. Et donc, du coup, ça commence à remonter un petit peu. Mais par ailleurs, il y a pas d'archives. Donc, c'est essentiellement du bricolage et recouper des témoignages. Si certains sont sans doute fondés, d'autres sont réinventés volontairement ou pas. Et donc, voilà, c'est un peu difficile parfois de trier le bon grain de livret, quoi.
D'ailleurs, à ce propos, Marwan Shaïn, vous écrivez « Au Liban, il n'y a pas de mémoire de la guerre, mais une guerre des mémoires ». C'est ça aussi la difficulté dans votre travail ?
Oui, c'est la difficulté et l'intérêt aussi, je crois, parce que en fait, après la fin de la guerre qui s'est terminée en eau de boudin, il n'y a pas eu de travail de réconciliation nationale. La raison principale, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a replacé les seigneurs de guerre dans le jeu politique et institutionnalisé d'une certaine façon l'amnésie. Et du coup, chacun est reparti sa mémoire dans son coin, sans qu'on se mette d'accord. Sauf que ces mémoires dont chacun a hérité, c'est des mémoires assez belliqueuses qui sont d'une certaine manière la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc c'était un peu, voilà, tenter de dépasser cette aporie qui m'a intéressé dans cette affaire. Et je crois que j'avais aussi envie de montrer toutes les mémoires déformées qu'il pouvait y avoir de ce même événement, pour montrer voilà à la fois cette difficulté assez importante dans le pays.
Ce livre, il est paru en septembre 2024. Comment est-ce qu'il a été reçu au Liban ? Est-ce que vous avez eu des retours ?
Alors, il est sorti dans un contexte un peu particulier, puisqu'il est sorti à quelques semaines de l'offensive israélienne sur le Liban. Donc, du coup, les gens avaient aussi beaucoup plus l'esprit au présent qu'au passé, entre guillemets. Après, il a eu, des premiers retours que j'ai. Je sais qu'il s'est bien vendu au Liban. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de Libanais, des messages très touchants de gens qui étaient contents qu'on parle de la guerre et qu'on en parle d'une autre façon. pas seulement à reproduire les récits héroïques qu'on avait dans les familles, mais à trouver une autre manière d'en parler. Et beaucoup de gens de tout âge et de tout bord, et c'est ce qui m'a beaucoup touché, m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient heureux qu'on parle de cette histoire qui est un peu la leur.
Vous donnez aussi beaucoup de vous dans ce livre qui est écrit à la première personne. Vous faites part, bien sûr, de vos avancées, mais aussi de vos doutes tout au long de votre enquête. Plus qu'une enquête, est-ce que c'est aussi une quête personnelle, ce livre ?
Oui, vous avez raison. Je pense que c'est une quête-enquête, ce qui n'était pas le but initial. Mais assez vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester complètement en dehors, dans la mesure où j'étais moi aussi une de ces mémoires libanaises tourmentées. Et que je pouvais pas non plus demander aux gens de me donner beaucoup de leur personne sans donner de moi-même et sans m'exposer moi-même. Donc voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à travers ces gens, c'est à ma propre histoire qui me renvoyait.
Merci beaucoup, Marwan Chahine.
Merci à vous.
Marwan Chahine, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, Beyrouth, 13 avril 75, Autopsie d'une étincelle, paru aux éditions Belfond. On ne pouvait pas mieux tomber enfin qu'un dimanche aux premières lueurs de l'aube. Il est 4h56 pour un peu de Saturday Night Fever. On vous emmène danser, on va en boîte, on va en discothèque, en fait pour de vrai, à la Philharmonie de Paris qui nous propose de replonger dans la longue histoire du disco. Ce genre musical que tout le monde croit connaître et sur lequel on porte même parfois un regard un peu moqueur et légèrement attendri, mais qui est en réalité bien plus que des cols pelle à tarte et des pantalons pas de def. Disco, I'm Coming Out, maestro José Marinho.
On s'y introduit comme dans une boîte de nuit et on y ressort avec la fièvre du samedi soir. Dès l'entrée de l'exposition disco, on est accueilli par une boule à facettes géante et la musique du groupe new-yorkais Chic. Un ensemble d'archives audiovisuelles, de photographies, d'instruments et d'œuvres d'art renforce la dimension planétaire du disco, un style musical né aux États-Unis.
La musique disco s'étend du début des années 70 au début des années 80.
Jean-Yves Leloup est journaliste, DJ et co-commissaire de cet événement. Il est question ici de revenir sur cette décennie où les discothèques étaient des temples avec des fidèles dévoués du crépuscule à l'aube.
Les discothèques ont pris leur essor, comme le célèbre Studio 54 à New York ou le Palace à Paris ou la Main Bleue à Montreuil, qui a aussi été un grand club pour les populations africaines immigrées en Ile-de-France.
Cette exposition réactive la nostalgie de la fête et d'un courant de liberté comme l'Amérique n'en avait jamais connu. Mais le disco, c'est aussi l'histoire d'un style longtemps caricaturé. À rebours des clichés, la Philharmonie de Paris rend justice à la fulgurance de cette musique ancrée dans l'histoire et la culture noire des États-Unis, héritière de la soul, du gospel et du funk.
Le début des années 70 est marqué d'abord par des avancées sociétales et politiques pour certaines minorités suite aux célèbres émeutes de Stonewall en 69. Après cette émeute, il y a une vraie libéralisation, un recul du harcèlement policier dont souffraient ces lieux consacrés aux minorités. Et on va voir naître une sorte de nouvelle économie portée par la culture LGBT, dans laquelle en partie va se développer la musique disco. Beaucoup de chansons à travers leurs refrains célèbrent effectivement une quête de liberté, d'émancipation sexuelle ou personnelle. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait autant de parallèles avec effectivement l'arrivée de Trump et ce retour de bâton contre le féminisme, contre les luttes de la communauté LGBT. Tout ça prend un nouveau relief avec l'époque actuelle, entre le backlash qu'a connu le disco et qu'ont connu ses populations à partir de 79 aux États-Unis et ce qu'elles connaissent à nouveau en 2025 aux États-Unis.
L'exposition à la Philharmonie de Paris souligne bien l'aspect politique du disco qui continue de porter sur la piste de danse différentes minorités et classes sociales, toutes réunies dans un même élan hédoniste.
Merci beaucoup José Marinho. Disco, I'm coming out, à voir jusqu'au 17 août à la Philharmonie de Paris. Thierry Le Saint réalisait cette première demi-heure africaine. Merci à lui. Sébastien Duhamel revient à 4h30 en temps universel. Je salue ce matin particulièrement Samuel Sanatina. Vous nous avez écrit depuis le village de Kao, commune de Yagua, dans l'extrême nord du Cameroun. Et vous adressez aussi des pensées pieuses, dites-vous, qui nous ont beaucoup touchés, à Jean-Karim Fall et à Laurent Sadou. Ceux qui nous ont quittés, ces monuments, dites-vous, de la rédaction Afrique de RFI. Chaque jour est une vie et on tente encore de travailler à la beauté des choses. Merci de votre fidélité sur la radio du monde. Il est 4h en temps universel.